Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Causes génétiques, prématurité, infection, exposition excessive au bruit ou effets secondaires de certains médicaments. La déficience auditive peut avoir de nombreuses causes et si l'âge est un facteur déterminant en matière de troubles auditifs, puisqu'ils augmentent sensiblement avec les années, 32 millions d'enfants sont malentendants sur la planète, d'après l'Organisation mondiale de la santé. En France, c'est un enfant sur 1000 qui naît sourd. 3 sur 1000 avec une perte auditive. Le dépistage précoce des troubles de l'audition favorise bien sûr la prise en charge, les enjeux sont multiples, l'acquisition du langage, qu'il soit parlé ou signé, l'adaptation et les progrès dans la quête d'autonomie, l'intégration. Mais comme pour tout handicap, cette prise en charge va dépendre de multiples facteurs. Le diagnostic, son acceptation par l'entourage, la compréhension des troubles, les conditions d'accès aux dispositifs et aux structures de soins, dépendre aussi des moyens disponibles, autant d'étapes, parfois d'obstacles qu'il va falloir franchir, apprendre à dépasser pour éviter l'isolement et les sentiments de frustration. Cette surdité des enfants, on en parle avec nos invités en studio. Docteur Isabelle Rouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes otorhino-laryngologiste à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris, spécialisé en audiophonologie, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Valérie Bouvier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la mère de Simon, il a 10 ans, il est sourd, profond, bien planté, cochléaire. On va là aussi expliquer ce que ça veut dire précisément dans quelques instants, en quoi consiste précisément cet appareillage, ces prothèses. Et autour de cette table également, Karine Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de la Fondation pour l'audition. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Marie-Josée Tanon-Anneau, chef de service ORL et ambulatoire pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville à Abidjan, présidente de la société ivoirienne d'ORL. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et on attend vos questions, vos témoignages, notre numéro 33 84 22 75 75 et bien sûr sur notre page Facebook.
Priorité santé sur RFI.
Et pour commencer, docteur Isabelle Rouillon, donc ce petit éclairage sur votre spécialité, l'audiophonologie, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est une surspécialité de l'ORL, ce sont des professionnels qui vont s'intéresser particulièrement à l'audition de l'enfant et au développement de son langage.
Alors, on va commencer par le départ, ce fameux dépistage des troubles auditifs, dans certains cas de la surdité. Lorsqu'on est face à un tout petit bébé, un nourrisson, un jeune enfant, comment ça se passe? Puisque bien sûr, on ne peut pas lui demander objectivement de réagir au bruit. Docteur Isabelle Rouillon, des appareils spécifiques? En fait, ça se fait déjà à quel âge?
Alors, on s'appuie sur deux tests objectifs, c'est-à-dire qu'ils ne demandent absolument pas la participation du bébé. Ce dépistage est proposé aux parents au décours de la naissance, dans les deux jours qui suivent, avant la sortie de maternité. Il consiste à donc soit par des auto-émissions acoustiques, c'est-à-dire qu'on met une petite sonde dans l'oreille du bébé et on va enregistrer la réponse de l'oreille en réponse à un stimuli sonore, soit un test plus complet qui s'appelle les potentiels évoqués auditifs et qui va là aussi enregistrer, mais cette fois-ci la réponse du cerveau à une stimulation sonore. Ce test de potentiel est à privilégier chez tous les enfants qui présentent des facteurs de risque de surdité, à savoir des antécédents dans la famille, une grande souffrance à la naissance ou une infection durant la grossesse à certains germes, à certains virus.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, docteur Rouillon, toutes les maternités sont bien équipées pour passer ce type de test, pour faire passer ce type de test au bébé?
Oui, la quasi-totalité des maternités sont équipées. L'article de loi en faveur du dépistage a été publié en 2012. Les financements ont été délivrés aux hôpitaux en 2013. Et le cahier des charges expliquant les modalités de réalisation de ce dépistage date de 2014. Donc, il faut savoir auparavant déjà des initiatives locales. Et donc, avant la mise en place de dépistage, il existait déjà des initiatives locales de dépistage. Mais nous sommes très contents de la généralisation et de l'accès de ce dépistage parce que cela permet vraiment un diagnostic plus précoce et donc une prise en charge adaptée plus précoce.
Valérie Bouvier, dans quelles circonstances le diagnostic a-t-il été posé chez votre fils, hein, Simon? Il a 10 ans aujourd'hui.
Alors, Simon est né en 2008, donc dans la maternité dans laquelle il est né, il n'y avait pas de ce dépistage précoce. Donc, nous avons, remarqué quelques signes. Il ne répondait pas toujours à son prénom, il ne doublait pas les syllabes. À ce moment-là, il avait déjà 8 mois. Et nous avons nous-mêmes fait la démarche d'aller voir notre ORL en ville pour faire un premier test d'auto-émission qui n'a pas donné de résultat. Et par la suite, rapidement bien sûr, nous nous sommes dirigés vers l'hôpital Trousseau à l'époque, parce que le service ORL était à Trousseau, et nous avons fait un test de potentiel auditif et évoqué auditif pour s'assurer qu'il entendait ou pas, et en l'occurrence, il n'entendait pas.
Et ça veut dire que votre pédiatre de tous les jours, hein, de ville, Valérie Bouvier, n'avait pas été alerté sur l'état de cet enfant?
Pas du tout. Et Simon était gardé en crèche, et la crèche n'avait pas non plus été alertée sur son état.
Ça veut dire, docteur Isabelle Rouillon, qu'il n'y a pas eu peut-être suffisamment d'attention ou simplement il y a des cas qui sont indétectables?
C'est extrêmement compliqué. C'est d'où l'importance de ce dépistage universel proposé à tous. C'est que le diagnostic, malgré les campagnes d'information des professionnels de la petite enfance, le diagnostic de surdité est extrêmement difficile. Il faut s'appuyer sur ces tests objectifs. Les enfants qui n'entendent pas bien sont extrêmement réactifs, sont très attentifs visuellement, vont donner le change. Et donc, hors dépistage, l'âge moyen de diagnostic des surdités sévères à profondes en Île-de-France était de 17 mois. Grâce au dépistage, le diagnostic est passé à 3,9 mois.
Entre les deux, juste l'enfant de Madame Bouvier, justement, 8 mois, est-ce que ça veut dire qu'on a déjà perdu du temps, docteur Rouillon?
Alors, 8 mois, c'est pas mal. Mais effectivement, aujourd'hui, la prise en charge va débuter dès l'âge de 3-4 mois. Ça permet, donc, juste une petite précision, il faut savoir qu'en maternité, on ne pose pas un diagnostic de surdité. En maternité, on contrôle l'audition. Si le test ne passe pas, l'enfant est revu pour un test de diagnostic, cette fois-ci, dans un centre spécialisé. Il faut savoir que sur 1000 enfants qui vont être dépistés en maternité, le test sera recontrôlé dans 10 cas, et sur 10 cas, il n'y en aura qu'un seul qui aura un problème d'audition. Donc encore une fois, pas de diagnostic en maternité, hein, juste un contrôle de l'audition.
Karine Rossignol, on l'a compris, aujourd'hui, c'est obligatoire ce diagnostic. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel plaidaient depuis longtemps les associations? Pour vous, c'est important de savoir pour les mamans, pour les papas, où en est leur petit avec son audition?
Moi, je dirais même que c'est fondamental. On a pu voir et s'inspirer de ce qui se fait outre-Atlantique. Ils ont, sur l'inclusion et l'accueil des différences, je crois, beaucoup à nous apprendre. Et il y a une université aux États-Unis, près de Washington, qui s'appelle l'université Galloway, et ils ont créé, à la demande des parents, une école des parents. C'est-à-dire que quand on vient vous dire on suspecte votre enfant d'être sourd, on pense que c'est hyper important de permettre aux parents d'échanger avec d'autres parents qui vivent la même chose. Parce qu'ils ont... D'abord, on apprend tous à être parents, c'est déjà une première expérience extrêmement structurante. Et ensuite, quand on vous dit « votre bébé est peut-être sourd », souvent, les parents sont un peu déstabilisés. Est-ce que je continue de le solliciter? Est-ce que je peux lui parler? Est-ce qu'il me comprend? Donc, l'hôpital fait un travail fabuleux et on est très admiratif de ce qui est fait dans les hôpitaux pédiatriques et ce qui se fait en France est remarquable. Mais il est vrai que peut-être, c'est bien aussi de pouvoir échanger dans un cadre qui n'est pas médical avec d'autres parents pour partager des expériences. Donc, on pense qu'il y a un vrai besoin d'échange et de partage d'expériences pour aider au mieux ces parents à qui on vient de faire cette annonce.
Alors justement, avant de revenir sur ces questions d'inclusion, d'intégration, docteur Rouillon, encore une question. On a parlé des pays, par exemple, en Amérique du Nord, où il y a ce genre de dépistage, mais beaucoup de pays dans le monde n'ont pas ces moyens, loin de là, en particulier dans les pays où on compte pas mal d'auditeurs, notamment sur le continent africain. Quels signes peuvent alerter les parents et l'entourage? Ils peuvent être conduits à se dire, mon enfant a peut-être un problème avec son audition.
Effectivement, un bébé qui va pas réagir à une stimulation sonore importante, il faut faire attention donc à ce que cette stimulation sonore ne soit pas donnée en même temps qu'un stimuli visuel. Le bébé va répondre en fait à la sollicitation visuelle. Et puis attention aux vibrations aussi, parce qu'un son fort est accompagné de vibrations et l'enfant va sentir la vibration et va faussement rassurer ses parents quant à son audition. Après, donc, un enfant qui ne réagit pas au bruit fort, sans autre possibilité d'information, et puis un bébé qui ne va pas doubler ses syllabes à partir de 7-8 mois.
Pour comprendre, il ne fait pas ba-ba-ba comme pa-pa-pa.
Exactement, voilà. Il ne va pas rentrer. Ça témoigne effectivement qu'il y a une entrée auditive de bonne qualité.
Parce qu'il y a toujours cette interaction absolue entre l'audition et l'acquisition du langage.
Bien sûr, pour parler oralement, il faut que le cerveau reçoive une information auditive de bonne qualité.
Alors, 8 mois, c'est l'âge qu'avait votre bébé Valérie Bouvier, qui est maintenant, on l'a dit, un petit garçon. Comment s'est passée l'annonce du diagnostic ?
Alors Simon avait 10 mois et demi exactement, parce qu'à 8 mois, on a commencé à avoir des doutes et on a commencé à faire des examens. Alors non, c'était pas le temps de réponse, on n'est pas allé directement vers la surdité, on a cru à de l'épilepsie, il avait plusieurs réactions qui pouvaient nous surprendre, donc on a commencé à faire des examens accompagnés par son pédiatre, et effectivement, il avait 10 mois et demi quand il a été dépisté à l'hôpital. L'annonce, il a fait donc cet examen de potentiel évoqué auditif. En dormant, parce que c'est un examen qui se fait pendant que le bébé dort, et avoir le visage de l'infirmière qui lui faisait passer cet examen, j'ai compris. Et donc c'est une annonce qui est assez douloureuse évidemment au moment où elle tombe. Et immédiatement, on a été pris en charge par le service ORL de l'hôpital, qui est effectivement une équipe absolument extraordinaire, aussi bien extrêmement accessible, extrêmement accompagnante.
Parce qu'on on vous dit ce qui se passe, mais en même temps, on vous propose quelque chose derrière. Vous n'êtes pas comme ça mise face à un coup près. Il y a un espoir et il y a eu des actes derrière très importants.
Oui. La première démarche a été de lui mettre des contours d'oreilles, donc des petits appareils qu'on met autour de l'oreille. Et nous avions rendez-vous avec l'audioprothésiste dès le lendemain matin du dépistage. À la suite de quoi, il a dû faire beaucoup d'examens pour arriver à déterminer s'il pouvait recevoir un implant cochléaire. Et donc, il a été implanté 10 mois plus tard pour lui donner accès au langage, les contours d'oreilles n'étant pas suffisants pour Simon pour entendre la parole de façon suffisamment satisfaisante pour pouvoir parler et être compréhensible par tous.
Docteur Isabelle Rouillon, implant cochléaire, ça mérite une explication.
Alors, en cas de surdité profonde, comme dit Madame Bouvier, il y a trop peu de restes auditifs pour que l'amplification donnée par les prothèses auditives conventionnelles, que l'on voit très classiquement maintenant, soit suffisante pour redonner une information précise. Il y a trop de distorsions, trop de déformations, et le message n'est pas suffisamment précis pour que l'enfant puisse développer son langage. Toute la spécificité de la surdité de l'enfant, c'est qu'elle survient chez un bébé qui est en train de construire son langage. Donc, dans ces cas-là, en cas de surdité profonde bilatérale, si les parents sont dans un souhait de développement du langage oral, et si les conditions anatomiques le permettent, s'il n'y a pas de malformation très sévère des nerfs ou de l'oreille interne, on propose ce qu'on appelle une implantation cochléaire. L'implant cochléaire, c'est une super prothèse, ça ne guérit pas la surdité, mais c'est un outil extrêmement performant et qui va permettre la restauration d'une information auditive précise. Mais ça ne guérit pas la surdité. Quand l'enfant enlève sa prothèse, il n'entend plus. Et il faut le comprendre comme un super outil qui va permettre à l'enfant de mieux entendre, mais qui va de toute façon devoir s'accompagner d'un travail orthophonique énorme.
Alors, il y a différents niveaux de surdité. Est-ce que, docteur Rouillon, en fonction du niveau de surdité, on a tel ou tel appareillage, tel ou tel implant ?
Tout à fait. Dans le langage courant, surdité veut dire qu'on n'entend pas du tout. Dans le langage médical, surdité veut dire juste atteinte auditive. Il y a les surdités légères qui vont avoir un faible retentissement. Les surdités moyennes, l'enfant va commencer à s'appuyer sur la lecture labiale. Les surdités sévères à profondes, aujourd'hui, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont d'une implantation bilatérale en cas de surdité profonde. Encore une fois, si c'est le projet de développement linguistique des parents et de l'enfant. Et en cas de surdité sévère, d'une implantation cochléaire unilatérale.
C'est difficile de prendre cette décision. Vous dites un parent qui décide ou non que son enfant ira vers le langage parlé, oral et non pas vers la langue des signes. Quand ça nous tombe dessus,
tout
c'est difficile
fait.
De décider est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il va parler.
Tout à fait. C'est extrêmement difficile et ça a été là aussi un des avantages du dépistage, c'est de donner du temps aux parents. Comme disait Madame Bouvier, et encore votre petit garçon, vous avez été alerté très vite, mais parfois le diagnostic se fait, donc en moyenne c'était 16-17 mois. Donc avec des parents qui ont d'abord une annonce extrêmement douloureuse, l'errance qui a eu diagnostic au départ, la culpabilité de ne pas s'en être rendu compte, et on leur dit si vous voulez avoir un bon résultat avec l'implant, il va falloir prendre une décision très tôt. Parce que du fait de la plasticité cérébrale, si l'enfant a une surdité très importante, il faut intervenir tôt. Donc l'avantage de ce dépistage, c'est grâce à un diagnostic précoce, si on peut mettre en place des choses dès 3-4 mois, les parents vont avoir aujourd'hui, en cas de surdité profonde, on essaie d'implanter avant 15 mois, entre 12 et 15 mois. Ils vont avoir de nombreux mois pour rencontrer des associations, pour rencontrer des parents et pour faire leur choix. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur enfant ? Est-ce qu'ils veulent donner toutes les chances pour accéder à un langage oral ? Est-ce qu'ils veulent une éducation mixte, orale et signante ? Est-ce qu'ils préfèrent se diriger vers le langage vers la langue française des signes, ils auront toutes ces opportunités et le temps de faire un choix en connaissance de cause et pas dans la précipitation.
Parce qu'il y a un débat profond, un débat quasi philosophique dans la communauté des malentendants sur cette nécessité ou non de parler, on va dire, comme des personnes entendantes. Karine Rossignol, vous avez des parents qui arrivent avec ce questionnement qui est très complexe.
Il est effectivement complexe et je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir un projet de communication pour son enfant. Si c'est l'oralisation, on a maintenant des solutions, mais il y a des enfants qui naissent sourds dans une famille de sourds-signants et qui, ma foi, grandissent très 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 bien et sont heureux dans leur communication et à l'aise dans la langue des signes. Donc il nous a semblé important juste de permettre à tous les parents d'échanger entre eux en s'appuyant du coup sur une association qui s'appelle l'École des parents. Françoise Dolto avait beaucoup œuvré à leur côté. Parce que quand on est parent d'un enfant sourd, on est parent avant tout. Donc ça rend les choses peut-être encore plus complexes d'accueillir cette différence. Et on s'est dit que c'était très bien de permettre à ces jeunes parents de pouvoir échanger avec d'autres familles, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça impliquait pour eux. Et comme vous l'avez dit, docteur, si on peut leur donner cette opportunité de rencontrer d'autres familles suffisamment tôt, d'avoir le temps de réfléchir et d'être à l'aise avec le projet de communication pour leur enfant.
Karine Rossignol, des parents qui font part justement de leur désarroi au moment du, on va pas dire du verdict, mais du diagnostic.
Alors, ce qu'on nous dit, c'est que les services hospitaliers sont invraisemblables et pour travailler beaucoup avec les équipes de Necker et les équipes partout en France, on sait à quel point leur engagement force l'admiration. Simplement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler au début. Et peut-être, en tout cas, c'est quelque chose qui nous a été reporté par d'autres parents, le fait de pouvoir échanger dans un cadre complémentaire de celui de l'hôpital qui est non médicalisé, vous permet de peut-être rester sur de la parentalité et d'accueillir cette différence un peu différemment. Je pense que ça serait intéressant de...
Il y a la dimension psychologique, mais je vais revenir à quelque chose de très concret. Il y a aussi toute la dimension administrative. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, parfois, on va dire, va polluer la relation à l'enfant, va polluer la relation au médecin, à la maladie, au handicap. Tout ça, ça devient beaucoup trop compliqué. Comment ça s'est passé pour vous, Valérie Bouvier ?
Simon a été dépisté le 8 juillet, je ne dis pas la date au hasard. Il avait fallu faire le dossier auprès de la MDPH, la Maison des Personnes Handicapées, avant le week-end du 14 juillet, pour qu'il puisse être pris en charge, avec toute la douleur que l'on pouvait évidemment ressentir. Cette démarche déjà chez l'audioprothésiste le lendemain du dépistage, donc le 9. Et ce dossier avait besoin d'être fait avant le départ en vacances des équipes administratives pour qu'il puisse être pris en charge en orthophonie dès le début septembre, parce que l'hôpital avait besoin que Simon soit conditionné par l'orthophonie pour pouvoir répondre aux tests complémentaires qu'ils avaient besoin de lui faire passer. Et on se heurte effectivement à l'administration. D'abord, un dossier extrêmement complexe à remplir. Bien que parfaitement éduqué, on nous demande beaucoup de documents à fournir et le dossier est complexe. Il fait 13 ou 14 pages. Et puis, on se heurte aux lenteurs de l'administration qui, dès le moment de rédaction du dossier, nous répond que l'on s'octroie, que l'administration s'octroie parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce qu'elle manque de personnel très certainement, 4 mois et demi pour nous répondre. Et là, 4 mois et demi, parallèlement, le médecin nous dit, c'est du temps perdu pour Simon, parce que Simon a besoin d'être suivi en orthophonie le plus tôt possible. Sachant, bien sûr, que le service ORL de Trousseau nous avait accompagnés également vers un centre d'orthophonie pour enfants sourds, et Simon avait une place dès le 1er septembre. Donc une orthophoniste l'attendait, mais elle ne pouvait pas le prendre en charge tant que la MDPH n'avait pas validé le dossier.
Ces obstacles administratifs, ce parcours du combattant, Karine Rossignol, des parents en témoignent auprès de votre association ?
Alors nous sommes une jeune fondation, c'est vrai qu'on est très proche des associations. Je crois qu'il y a un vrai besoin, que ce soit les sourds-signants, que ce soit les malentendants qui se sentent à l'aise avec ce qu'on appelle la LPC, la langue parlée complétée, ou que ce soit des malentendants oralisants, tous ont besoin, tous en tout cas, toutes les associations nous ont remonté un besoin d'accompagnement, en tout cas de partage d'expérience. Donc il ne s'agit en aucun cas de se substituer à ce que fait merveilleusement l'hôpital, c'est juste apporter peut-être un accompagnement ou une disponibilité, un partage d'expériences complémentaires pour quelque part se sentir le mieux possible dans toutes ces étapes qui sont parfois un peu compliquées à mener en tant que jeune parent.
Karine Rossignol, Valérie Bouvier, docteur Isabelle Rouillon, vous restez avec nous. On va tout de suite prendre des messages Facebook des auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Alors, deux messages que je vais vous lire qui sont arrivés sur la page Facebook de l'émission. Message de la République démocratique du Congo. Notre auditeur s'appelle Babou Fils. Il nous dit donc qu'il est congolais. Ma fille aînée qui n'a que 2 ans. C'est un message que je vous adresse, docteur Isabelle Rouillon. Elle a 2 ans. Elle a parfois du pus qui sort de l'oreille gauche et parfois aussi des deux oreilles. Est-ce qu'elle risque de devenir sourde?
Alors, sa petite vraisemblablement fait des otites, voire des otites à répétition. Donc, il faut qu'il puisse la faire soigner. Une otite chronique peut être responsable d'une perte auditive, atteinte du tympan, puis des osselets. Donc oui, il faut faire attention.
Et ce genre de choses peut être pris en charge par un médecin généraliste dans un premier temps.
Oui,
donc le conseil à Babou, s'il est à l'écoute, c'est aller avec sa petite fille voir le médecin le plus rapidement possible dans un centre de santé pour lui faire examiner les oreilles et donc que ce médecin puisse poser au plus tôt un diagnostic. Et puis j'ai une deuxième question, je pense là que c'est vous Valérie Bouvier qui allez y être sensible, question de Delhi. Beaucoup d'enfants sont sourds en République démocratique du Congo, voilà au Congo-Kinshasa. Est-ce que cette surdité peut avoir un impact sur l'intelligence de l'enfant ?
Par mon expérience personnelle avec mon petit garçon, je dirais bien évidemment que non. Mais je sais qu'historiquement, on disait que les sourds étaient des personnes qui pouvaient être déficients intellectuellement. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. On sait que non. Mon exemple personnel fait que moi j'ai un petit garçon qui a 10 ans aujourd'hui, qui est certes sourd profond, mais qui est parallèlement un enfant précoce, ce qui aujourd'hui dans ma vie quotidienne est ce qui me pose le plus de problèmes à gérer, parce qu'une précocité intellectuelle nécessite de s'adapter à un système scolaire classique et n'est pas toujours évidente, mais la surdité se gère très très bien au quotidien. Donc non, certainement pas, ça n'altère absolument pas l'intelligence. Simon est un petit garçon parfaitement intelligent.
Qui a parfaitement appris à lire, à écrire et qui se débrouille plutôt bien à l'école, peut-être plutôt trop bien.
Voilà, il est en CM2 et dans sa classe d'âge et il est en tête de classe.
Est-ce que justement sur ce niveau de la surdité qui dépend la prise en charge, justement, docteur Isabelle Rouillon, comment ça se passe par rapport à la définition du projet d'acquisition du langage ? Est-ce que ça va dépendre aussi de l'appareillage ? Est-ce que, par exemple, quand on a un implant, on va aller forcément vers l'oralisation, ou il y a des gens qui ont des implants qui vont entendre et qui, parallèlement, vont signer?
Alors, quand on part sur un projet d'implant cochléaire, c'est que les parents ont décidé d'orienter l'éducation de leur enfant vers un projet oralisant. Ou un projet mixte. Hein. On a beaucoup de parents qui disent, nous, on veut pas se fermer de porte, on veut que notre enfant essaie d'apprendre à parler si c'est possible. Mais d'un autre côté, on est très intéressé par la LSF. Le soir, on enlève l'implant et puis on signe une petite histoire pour que l'enfant soit confortable aussi dans le monde des sourds, dans le monde des personnes signantes. Et puis que quand il est à la plage sans son implant, il soit confortable. Il faut savoir aussi que l'implant, ça ne résout pas tous les problèmes. Et que si on se place dans le meilleur cas de figure, c'est-à-dire un diagnostic précoce, une prise en charge précoce, un enfant qui n'a que la perte auditive, parce que parfois, hélas, la surdité peut être accompagnée d'autres pathologies plus générales, et notamment avec un retard psychomoteur, enfin d'autres choses associées plus ou moins sévères. Et puis, évidemment, une famille soutenante et un travail orthophonique intense. Si toutes ces conditions sont réunies, on a des très bons résultats d'évolution linguistique dans 70 à 80% des cas, mais pas 100% des cas. Il y a d'ailleurs des enfants entendants, parfaitement, qui vont avoir du mal à rentrer dans le langage oral. Eh bien, chez les enfants déficients auditifs, c'est un petit peu plus. Donc, dans 20 à 30%, on est extrêmement prudent sur le pronostic qu'on donne aux parents. On leur dit, voilà, on part sur un projet oralisant, on va implanter votre petit, mais il faudra qu'on s'adapte à l'évolution de votre enfant. Peut-être qu'il aura besoin d'un peu plus d'orthophonie, peut-être qu'il aura besoin de signes, d'un petit peu de signes, de beaucoup de signes. L'avenir nous le dira.
Sur ce parcours de soins, vous avez cité l'orthophonie, est-ce qu'il y a d'autres praticiens qui interviennent justement pour l'enfant sourd?
Oui, les psychologues, les psychomotriciens, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire autour de l'enfant. Et puis après, en fonction d'éventuellement d'autres pathologies présentées, comme c'est le cas dans à peu près 10% des cas, d'autres spécialistes si l'enfant a d'autres soucis.
Valérie Bouvier, votre enfant Simon a vu un orthophoniste au départ. Aujourd'hui, il continue ou il va voir d'autres personnes, ou simplement il a arrêté avec ce parcours de soins très complexe?
Alors, le parcours de soins a commencé à l'âge d'un an. À un an, c'était un petit bébé encore. Il n'avait que 2 séances d'orthophonie, puis c'est monté à 3, puis 4. Toutes ces années de maternelle, il avait 4 séances d'orthophonie par semaine. Et puis, petit à petit, on a réduit. Il a arrêté les séances d'orthophonie il y a un an maintenant, à l'entrée au CM1, à 9 ans, parce que il n'en avait plus vraiment besoin, il n'a aucune confusion de son, il entend bien. On fait des contrôles tous les 6 mois à l'hôpital Necker pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte ou de...
De dégradation.
De dégradation dans sa façon de s'exprimer, merci. Mais aujourd'hui, non, il n'a plus de suivi orthophonie.
Alors, Karine Rossignol, on le rappelle, directrice de la Fondation pour l'audition. Vous parliez tout à l'heure de cette initiative à l'école des parents avec des séances d'échange. Qui participe justement pour un petit peu mettre en relation ces familles, ces praticiens? Je ne sais pas qui est autour de la table.
Alors, je dirais que c'est un vrai travail de groupe interdisciplinaire pour faire connaître aux familles cette initiative et cette possibilité d'échange. Donc, effectivement, les hôpitaux, maternités, PMI ont été informés et distribuent l'information aux parents. Et puis nous, on est en phase pilote avec cette association Loi 1901 qui se trouve à Paris. Dans le 11e arrondissement.
On mettra le lien à la fin sur notre site internet. Vous pourrez trouver tout ça en allant sur le web RFI.fr.
Merci. Et effectivement, ils nous ont proposé, parce qu'ils ont l'habitude de faire des ateliers en parentalité, d'organiser différents thèmes de septembre à décembre. Donc je crois qu'il y a entre 4 et 6 ateliers par mois avec des thématiques différentes pour les parents qui viennent une première fois pour connaître effectivement les 3 grandes solutions, l'oralisation, la langue parlée complétée ou la langue des signes. Et puis il y a aussi des moments d'échange, parce que on peut être le parent d'un petit Simon de 10 mois, mais on peut aussi être le parent d'un adolescent qui est scolarisé, qu'oralise parfaitement, mais qui traverse une crise d'adolescence. Il y a quelques mamans autour de la table, donc on est toutes placées pour savoir que c'est quand même un peu compliqué et que cette différence à vivre pour ces jeunes futurs adultes n'est pas toujours facile. Donc, il nous a semblé important, effectivement, d'essayer d'accompagner les parents tout au long, quelque part, de leur mission auprès de leurs enfants.
Valérie Bouvier, c'est quelque chose que vous avez fait? Vous vous tournez vers un réseau associatif à un moment donné pour trouver de l'aide ou simplement échanger?
Alors, l'école des parents n'existait pas quand Simon a été dépisté sourd. J'aurais vraiment souhaité qu'elle existe parce que je me serais fatalement retournée vers cette association. J'étais beaucoup à la recherche de témoignages de parents qui avaient des enfants plus âgés que le mien pour me témoigner de leur parcours. Je cherchais beaucoup ce type de témoignages aussi auprès des médecins de l'hôpital qui restaient extrêmement prudents et je comprends parfaitement parce que chaque enfant est différent. Mais moi, j'avais besoin d'être rassurée et qu'on puisse me rassurer sur l'avenir de mon enfant. Et aujourd'hui, je serais absolument ravie de pouvoir rassurer des parents qui eux-mêmes découvrent la surdité de leur enfant, parce que des parcours comme celui de Simon, effectivement, sont rassurants et permettent d'envisager l'avenir, même quand on apprend une si mauvaise nouvelle.
Alors, la prise en charge de ces déficiences, on va voir tout de suite comment ça se passe en Côte d'Ivoire. On prend le chemin d'Abidjan.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Marie-José Tanon-Anneau, bonjour.
Bonjour Madame Paris, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes chef de service ORL ambulatoire pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, présidente de la Société ivoirienne d'ORL. Est-ce que vous avez des chiffres, professeur, sur la déficience auditive des enfants en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des données épidémiologiques?
Merci Madame Paré. Effectivement, en Côte d'Ivoire, nous ne disposons pas de données nationales. Mais avec la Société ivoirienne d'ORL, nous organisons depuis 2004 des dépistages gratuits, des enquêtes de dépistage dans la population. Donc, mais nous visons essentiellement les enfants, notamment les élèves et les étudiants. Et donc, à partir de ces données, nous avons quelques chiffres. Nous savons que la fréquence, en tout cas en milieu scolaire, de la surdité est de 4 à 6%, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons également fait des enquêtes au niveau néonatal et nous avons à peu près 5 à 6% de nouveaux-nés qui naissent avec une déficience auditive, contrairement à la France où c'est
1 pour 1000 environ.
Mmh. 1 pour 1000, pardon. Voilà. Mmh.
Comment vous expliquez justement cette forte proportion, je suis même tentée de dire énorme proportion d'enfants qui naissent avec des déficiences auditives dans votre pays, professeur Tanon-Anneau?
Il y a plusieurs facteurs et notamment le mauvais suivi des grossesses. C'est encore un problème chez nous et donc les grossesses ne sont pas suivies, le bilan prénatal n'est pas toujours fait. Et les conditions d'accouchement ne sont pas toujours les meilleures. Nous avons encore quelques accouchements à domicile, dans des centres pas très équipés. Et la proportion de souffrance néonatale ou alors d'infection néonatale reste encore élevée dans notre pays.
Ça veut dire que ce n'est pas comme en France, forcément les raisons génétiques de l'hérédité qui causent une majorité de cas de surdité dans votre pays?
Nous ne pensons pas qu'il s'agit plus de surdité génétique parce que c'est vrai que nous n'avons pas les moyens de faire le dépistage, les tests génétiques après le dépistage de la surdité, mais certaines notions comme la surdité familiale, les antécédents de malformation ou de surdité dans la famille, nous ne les retrouvons pas vraiment. Et nous avons quand même 60 à 70% de causes infectieuses de nos surdités. En dehors des infections néonatales, nous avons également la méningite qui est forte, prédominante dans notre milieu.
Et du côté de la prise en charge, professeur Tanon-Anneau, qu'est-ce que vous pouvez proposer quand un parent arrive, quand il y a justement ce diagnostic qui est posé? Est-ce qu'il y a des moyens pour remédier à la situation?
Oui, actuellement, nous avons fait beaucoup de progrès en Côte d'Ivoire et nous pouvons proposer tous les moyens pour prendre en charge tous les types de surdités. En dehors des surdités de transmission qui ont un meilleur pronostic et pour lesquelles les solutions sont facilement accessibles chez nous, nous avons actuellement la possibilité de prendre en charge des surdités même profondes avec les implants cochléaires. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Et c'est un moyen qui est disponible en Côte d'Ivoire depuis décembre 2015. nous avons commencé à implanter des enfants sourds et profonds à Abidjan. Il faut signaler que dans la proportion d'enfants diagnostiqués sourds que nous avons plus de 50% qui sont des surdités sévères à profondes. Ça aussi, c'est un de nos gros problèmes parce que la majorité, justement, se retrouve dans cette catégorie-là.
Question très concrète, professeur Tanoano, pour la prise en charge, on imagine que ces parents n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Comment ça se passe? Il y a des aides ou c'est tout à leur charge?
Malheureusement, c'est vraiment encore tout à leur charge, à la charge des parents. Ils essaient de trouver des moyens comme ils peuvent. Ils demandent quelquefois des soutiens à certaines fondations qui participent, mais c'est pas vraiment répandu. Et donc, pour l'instant, tout reste à la charge des parents, ce qui fait vraiment qui limite la prise en charge. C'est un gros frein à la prise en charge de nos enfants sourds à Abidjan.
Alors, prise en charge compliquée. Et qu'est-ce que vous faites en matière de prévention, justement, pour alerter les parents, y compris alerter les mamans, avant de mener une grossesse sur la qualité de cette grossesse qui pourra être déterminante sur la qualité de l'audition de son bébé à venir?
Oui, ce que nous avons essayé de faire avec la société ivoirienne d'ORL, il faut rappeler que nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes à peine 60 ORL pour toute la population ivoirienne. Mais nous essayons chaque année, pendant 2 à 3 jours, de mener des campagnes de dépistage, mais également des campagnes de sensibilisation et de formation dans la population. Et donc, nous ne restons pas uniquement dans la capitale, nous allons dans toutes les villes, nous essayons d'aller dans toutes les villes de l'intérieur du pays où il n'y a pas d'ORL pour porter ces messages, aussi bien aux professionnels de la santé, donc aux infirmiers, aux médecins généralistes, qu'à la population. Nous organisons des conférences publiques et à l'occasion des dépistages gratuits, nous faisons beaucoup, beaucoup de sensibilisation en expliquant les causes de la surdité, parce que cela aussi n'est pas bien connu par la population, qui pense souvent que ce sont des malédictions, des sorts jetés, etc. Donc, à partir de ces campagnes que nous menons, chaque année, nous essayons de sensibiliser et donc d'informer sur les causes et sur les attitudes à éviter pour ne pas occasionner des surdités, justement.
Merci beaucoup, professeur Marie-Josée Tanoano. C'est important, d'autant plus qu'on l'a compris en vous écoutant, qu'il y a de nombreuses causes évitables. Je rappelle que vous êtes chef de service ORL et ambulatoire pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, présidente de la société ivoirienne d'ORL.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On voit cette différence de moyens entre... comment ça vous fait réagir, vous, la maman d'un petit garçon, on va dire, qui a été... malgré ce petit retard au démarrage de 8 mois, on va dire, très bien pris en charge. Comment ça vous fait réagir?
Je ne suis pas surprise. Je pense que l'Afrique n'est pas le seul pays où les parents doivent porter la charge, le seul continent, oui, la charge financière d'une implantation cochléaire. Je ne le sais pas dans le détail que la prise en charge des différents continents ou pays, mais toujours est-il qu'effectivement, je sais la chance que nous avons d'être en France et d'être à ce point accompagnés et pris en charge, parce qu'effectivement... tout est pris en charge dans le cadre du handicap.
Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée. Quand on parle handicap, on parle souvent discrimination, on parle inclusion. Valérie Bouvier, votre fils a 10 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il a subi justement des vexations, des discriminations?
Un petit peu au début de sa scolarité, en fin de maternelle et CP. On l'a changé d'école à l'issue de son CP pour ces raisons-là. Depuis, plus du tout. Quant à Simon, il ne voit que l'avantage de la carte d'invalidité pour pouvoir ne pas faire la queue chez Disney. Mais mis à part cela, il voit le bon côté des choses. Il ne se sent absolument pas comme une personne handicapée et certainement pas moins bien équipée que ses copains entendants.
Karine Rossignol, est-ce que justement votre fondation fait de la prévention, de l'information au sujet de cette question de la discrimination?
Oui, et une de nos missions principales, c'est de faire changer le regard sur cette cause de l'audition. On dit souvent que la vision sépare les hommes des choses et que l'audition relie les hommes aux hommes. Il est fondamental de pouvoir avoir accès à l'autre. C'est l'éducation, c'est l'émotion, c'est la famille, c'est vraiment au plus profond de la vie. On le voit avec Simon et on le voit avec d'autres enfants. C'est ces petits bouts qui grandissent effectivement avec de l'orthophonie très très bien accompagnés, sont non seulement comme la plupart de leurs petits camarades, mais voire souvent un peu plus en avance. Et je pense que d'une façon générale, d'ailleurs, pour tous ces enfants, quand ils savent et quand ils ont la chance d'être entourés pour accepter cette différence, ils en font quelque chose de très fort. Ça peut être au contraire une pulsion de vie extraordinaire. Donc plutôt que de les stigmatiser, il me semble très important d'inclure, d'accueillir ces différences. Ces enfants-là ont plein de choses à nous apprendre et il faut qu'on fasse bouger le regard qui est porté sur la malentendance et la surdité.
Comment on le fait bouger ?
Alors, on a plusieurs actions pour le faire. Déjà, il faut informer les professionnels de santé. Quand j'ai les professionnels de santé, je parle bien évidemment pas de l'hôpital Necker ou des campus hospitaliers qui sont à la pointe. On se rend compte encore que même auprès des médecins généralistes, il y a encore beaucoup d'outils, de repérages peut-être qu'on pourrait fournir pour améliorer ce dépistage ou ce repérage de problèmes de surdité. Donc, on a tout un tas d'initiatives qui vont aller dans ce sens-là, des outils sur smartphone, tout simplement. On mène des actions auprès des jeunes dans les festivals de musique, rock en scène, Will of Green. Je pense que les choses évoluent. Il y a aussi
parce qu'il y a bien sûr cette notion de détérioration de l'audition par une exposition excessive au son. Les jeunes n'en ont pas forcément conscience.
Exactement. L'OMS dit que d'ici à 2050, il y aura plus d'un milliard de jeunes gens qui seront sourds. Parce que consommateurs de musique amplifiée de façon non responsable. On a tous un capital auditif, un peu comme un capital solaire quelque part. On est avec 3500 cellules ciliées, elles ne se renouvellent pas, donc si, parce qu'on sollicite trop notre audition, effectivement, on tue ou on abîme ces cellules, elles ne sont pas remplacées. Et si vous avez un choc auditif avec des acouphènes en sortant de boîte à 20 ans, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que vous avez perdu des cellules ciliées, mais par contre, si vous allez consulter à la pitié à 40 ans avec une surdité brusque, on pourra peut-être relier, effectivement, expliquer un traumatisme sonore. Donc c'est important de faire prendre à tout un chacun que, et sans nécessairement prôner une culpabilisation que les jeunes sont pas, ont
une
pas très envie d'accueillir.
Oui, oui.
C'est plutôt,
ils vont pas tous se mettre à la musique de chambre, hein.
Non. Et je crois que ça serait pas raisonnable de leur demander. Et puis c'est pas le propos. Le propos, c'est plus d'être, on a besoin d'avoir accès à l'autre. On adore la musique. Il faut pouvoir profiter de l'autre et de la musique le plus longtemps possible. Ça passe par une consommation responsable.
Le mot de la fin, docteur Isabelle Rouillon. Justement, cette problématique de la discrimination, de l'intégration, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la prise en charge médicale aussi ?
Oui, on le voit bien. Alors, chez par exemple les plus grands, nos jeunes collégiens, quand ils ont une perte auditive plus modérée et qu'on doit leur proposer un appareillage, alors le primaire, il n'y a en général pas de difficulté, mais au collège, c'est compliqué de faire accepter un appareillage auditif aujourd'hui à un jeune qui rentre en 6e, en 5e.
Même si ça ne se voit pas beaucoup, c'est quand même gênant.
Si c'est extrêmement discret, ça n'a pas du tout... Ça ne passe pas encore, ou ça passe encore difficilement dans les pratiques courantes. Hein,
accepter la différence, ouais. Même si elle est minime. Merci beaucoup, hein, merci à vous trois d'avoir préparé cet échange. Merci pour votre témoignage, Valérie Bouvier, et bonne chance dans ses études pour Simon. Karine Rossignol, directrice de la Fondation pour l'audition, et à vous, docteur Isabelle Rouillon. Je rappelle que vous êtes ORL à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris, spécialisée en audiophonologie. Sport et santé, on en parle tout de suite avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors aujourd'hui, on va donner quelques conseils à nos auditeurs qui souffrent d'un handicap. Comment faire pour se lancer dans une activité sportive ?
Alors, effectivement, lorsque on souffre d'un handicap, la médiatisation des champions paralympiques, ouvre de nouveaux horizons, hein. Évidemment, on s'adonne des envies. Cependant, s'associe également la notion de compétition de sport. Et souvent, les personnes peuvent se persuader qu'ils ne sont pas capables de pouvoir faire ce sport et que aucun club ne pourra les accueillir. Et alors qu'il faut vraiment savoir que le handicap n'est pas un obstacle, justement, à la pratique sportive. Bien au contraire. Par exemple, il y a des disciplines qui sont largement ouvertes. Hein. Par exemple, même y compris la plongée, par exemple la plongée sous-marine, le tennis de table, l'équitation. On peut faire du foot fauteuil, du basket fauteuil. Enfin, il y a énormément de sports qui peuvent être faits alors qu'on est en situation de handicap. Et puis, ça a beaucoup de bénéfices, justement, de faire cette activité physique et sportive. Bah, ça augmente l'estime de soi, ça lutte contre les effets nocifs de la sédentarité et puis ça lutte aussi contre l'isolement, quelquefois, dont les personnes peuvent souffrir.
Alors, quelles sont les premières démarches à faire?
Bah, la première chose, c'est évidemment de consulter son médecin et de suivre ses recommandations en fonction de son handicap. Alors, l'idée, c'est de choisir des activités qui, bien sûr, correspondent aux possibilités motrices, hein, mais surtout qui procurent du plaisir. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est éventuellement faire des activités de groupe. Parce que, évidemment, il y a l'aspect convivial, relationnel qui intervient. Et puis, la régularité sera importante, bien au-dessus de la prouesse physique. Et donc, là-dessus, plusieurs possibilités sont offertes, hein, pour se mettre au sport. D'abord, il y a des associations, des fois, spécifiques, hein, de sport adapté. Là, par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle les comités départementaux de sport adapté qui existent. Et puis, il ne faut pas aussi hésiter à solliciter des associations classiques qui peuvent accueillir des sportifs qui sont en situation de handicap. Alors, là, il faut se renseigner auprès de sa mairie, des clubs qui existent à proximité de son domicile.
Situation spéciale, hein, quand on est en fauteuil, par exemple, est-ce qu'on peut se préparer pour faire du sport, se préparer physiquement?
Bien sûr, hein, le fait de se renforcer, par exemple, de faire une préparation physique, ce sera quelque chose qui sera à la fois bénéfique pour l'aspect sportif, mais aussi pour la vie de tous les jours. Alors, il ne faut pas hésiter à renforcer sa région lombaire, abdominale, les bras, les jambes. Tout ça sera tout à fait positif. Il ne faut pas hésiter non plus à demander à son kinésithérapeute ou à son médecin s'il y a un moindre doute. Parce que il faut y aller là-dessus progressivement pour ne pas prendre de risques, parce que bien évidemment, l'idée est, vu que l'importance, la motricité, il n'est pas question, bien sûr, de se faire mal.
Alors, du côté de ces exercices, docteur Jean-Marc Sen, ça donne quoi en pratique?
Par exemple, il y a un premier exercice où on peut renforcer ses épaules. Bon, par exemple, on prend une petite haltère, hein, dans une main qu'on place sur la cuisse. On lève comme ça, en expirant le bras en avant, de sorte que le coude et le poignet soient à hauteur de l'épaule. Et là, on va renforcer la partie antérieure un petit peu de l'épaule. On peut faire le même geste un petit peu sur le côté. Et là, on va renforcer la partie latérale. Alors, par exemple, on peut même prendre une petite bouteille d'eau, hein, une bouteille d'eau d'un litre remplie d'eau, ça fait un kilo. Remplie de sable, ça fera un kilo cinq. Donc ça, c'est une façon simple d'avoir des haltères qui coûtent pas cher. Un deuxième exercice, ça peut être de renforcer le cou. Alors, on va prendre une serviette, une grande serviette ou une petite sangle ou un élastique. On peut le faire avec un partenaire qui va tenir l'élastique en avant en plaçant en arrière de la tête. On va comme ça tenir le cou bien droit et renforcer, faire des mouvements d'extension du cou plusieurs fois, une dizaine de fois. On peut et en avant et sur le côté. Voilà, on peut faire ça plusieurs fois. On peut même le faire tout seul. À ce moment-là, on prend un poteau, hein, on attache l'élastique et puis on fait le même exercice. Ça, c'est superbe parce que ça va vraiment renforcer tous les muscles du cou. Et puis, les muscles abdominaux, on se met allongé sur le dos, bien à l'aise, et on relève tout doucement l'abdomen. On n'est pas obligé de faire des grands mouvements, même au contraire, ça peut être nocif. Relever tout doucement, l'initiation du mouvement sera intéressant pour renforcer ses abdominaux. Voilà, avec juste ces quelques conseils, tous nos auditeurs qui portent un handicap pourront débuter une activité physique pour leur plus grand plaisir.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On vous retrouve très prochainement dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous allons parler des troubles et maladies de la prostate. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.